l'heure, il est 18h. Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les États-Unis comptent rester présents militairement en Syrie pour lutter contre le groupe État islamique et pour faire pression sur Damas, explication d'Éric Bigala. Sommet franco-britannique à Sandhurst, au Royaume-Uni, il est surtout question d'immigration clandestine et de défense. Les surveillants de prison toujours mobilisés, le mouvement a fait réagir une centaine de détenus de Fleury-Mérogis où les temps de promenade avaient été raccourcis. Les états généraux de la bioéthique sont lancés, débats et consultations sont organisées jusqu'à cet été sur la PMA, le suicide d'assister ou encore sur la thérapie génique, c'est le dossier de ce journal. Les États-Unis précisent leurs intentions en Syrie. À la Turquie, qui proteste contre la création d'une force de sécurité frontalière composée pour moitié de combattants kurdes, Washington assure qu'il y a eu malentendu. En revanche, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson prévient que les États-Unis vont maintenir leur présence militaire en Syrie, Éric Biegala.
Oui, et c'est d'ailleurs une grande première, la première fois que les États-Unis dévoilent, et qui plus est très précisément, leur stratégie en Syrie. C'est dans un colloque à l'université de Stanford, en Californie, que le secrétaire d'État américain a, il y a quelques heures, détailler publiquement les objectifs poursuivis par les Américains en Syrie. 5 objectifs distincts en fait. Premièrement, défaire militairement et complètement les groupes affiliés non seulement à l'État islamique, c'est déjà presque fait, mais aussi à Al-Qaïda. Ces derniers dominent les forces rebelles dans la province d'Idlib en ce moment. Deuxièmement, résoudre le conflit en Syrie en mettant en place dans le pays une organisation politique nouvelle, stable, qui succéderait au régime de Bachar al-Assad. Troisièmement, réduire considérablement l'influence iranienne dans le pays. Quatrièmement, faire en sorte que les millions de réfugiés de déplacés puissent rentrer chez eux de manière volontaire. Et enfin, s'assurer que la Syrie ne dispose plus d'armes de destruction massive. On imagine qu'il s'agit des armes chimiques que Bachar al-Assad détient toujours et utilise parfois. Pour parvenir à ces objectifs, le chef de la diplomatie américaine explique également que les États-Unis non seulement maintiendront une présence militaire dans le pays, il y a déjà environ 2000 hommes, et ce, sans limite dans le temps, mais qu'ils soutiendront également la réorganisation civile et d'une certaine manière la reconstruction des territoires libérés de l'emprise de l'État islamique, tout en précisant bien qu'aucune assistance ni civile, ni militaire, ni même humanitaire ne pourrait être octroyée aux zones actuellement contrôlées par le régime. En clair, ce sont surtout les zones actuellement tenues par les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, qui seront ainsi aidées, militairement et financièrement. Une ligne en parfaite adéquation avec l'annonce le week-end dernier par les porte-paroles américains de la coalition internationale de la prochaine formation d'une force kurdo-arabe de 30 000 hommes dans le nord et l'est syrien, ce que la Turquie avait effectivement parfaitement bien compris.
Éric Bigala, à Washington, Donald Trump met la pression sur les parlementaires pour parvenir à un accord sur le budget fédéral qui achoppe sur les questions d'immigration. Dans ses tweets matinaux, le président américain a accusé les démocrates d'obstruction. Il a aussi réaffirmé qu'un mur serait bien construit à la frontière mexicaine. Mais à la Maison-Blanche, c'est la plus grande confusion, Grégory Phillips.
Il y a une semaine, la conseillère spéciale du président Trump, Kellyanne Conway, est interrogée par CNN sur la faisabilité de ce mur. Et voici sa réponse.
Après avoir consulté les experts engagés dans ce projet, le président a découvert qu'une partie de ce mur sera un mur physique, une partie sera un mur technologique et une dernière partie sera une barrière. Mais vous savez, on me dit qu'il y a des rivières, des montagnes et des terrains qui ne permettent pas de construire un mur par endroit.
Puis hier, c'est le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, qui à son tour émet des doutes et, selon le New York Times, explique à des élus hispaniques que le président a été mal informé sur le mur et que son avis sur le projet a évolué. Troisième temps enfin, Trump affirme aujourd'hui, dans plusieurs tweets matinaux, que le mur se fera, comme promis, et qu'il sera bien payé par le Mexique. Le président est, paraît-il, furieux des déclarations de son chef de cabinet et il fait du mur un enjeu autant sécuritaire que politique. Sans mur, prévient Donald Trump, il n'y aura pas d'accord sur les Dreamers, ces 700 000 jeunes immigrés que les démocrates veulent voir régularisés.
Grégory Phillips à Washington. C'est à l'Académie militaire royale de Sandhurst que s'est ouvert le 35e sommet franco-britannique. Ce premier sommet bilatéral depuis le vote du Brexit est essentiellement consacré aux questions liées à la défense et à l'immigration. La correspondance d'Antoine Gignot.
Quelques notes de la Marseillaise et Emmanuel Macron disparaît au milieu d'une armée de bonnets à poils et de chapeaux à plumes suivis par Theresa May. Le président de la République, à côté de la Première ministre, entouré des bataillons d'infanterie, c'est sans doute l'image que le Royaume-Uni espérait donner de ce sommet, le symbole d'une coopération militaire destinée à se poursuivre après le Brexit. Nous quittons l'Union européenne, répètent les membres du gouvernement ici, mais nous ne quittons pas l'Europe. preuve de cette coopération. En matière de sécurité et de défense, le Royaume-Uni va envoyer 3 hélicoptères pour appuyer la force Barkhane au Sahel. La France va en échange dépêcher des soldats pour renforcer l'unité britannique présente en Estonie. Et puis, les deux pays prévoient de travailler ensemble à la construction d'un drone de combat. Les ministres de la Défense en parlent en ce moment. Enfin, même si les échanges sont beaucoup plus discrets, l'autre enjeu en matière de sécurité, c'est la coordination des services de renseignement. Il y a eu, en amont de ce sommet, une rencontre inédite, une réunion des chefs des 5 services de renseignement britanniques et français. Le porte-parole du gouvernement au Royaume-Uni parle de la nécessité de travailler ensemble dans un contexte d'attentat, dans le prolongement du plan signé au mois de juin dernier entre les deux pays et qui prévoit de surveiller les activités terroristes sur Internet.
C'est une bouffée d'oxygène pour Airbus. La compagnie du Golfe Emirates lui passe commande de 36 A380 pour un montant catalogue de 16 milliards de dollars. Lundi, l'avionneur européen avait prévenu que si cette commande n'aboutissait pas, le programme A380 était menacé. Human Rights Watch appelle à résister face aux attaques contre les droits humains. L'ONG a choisi de présenter son rapport mondial 2018 à Paris pour saluer la campagne électorale d'Emmanuel Macron. La France a représenté l'exemple le plus frappant du succès de la résistance au populisme xénophobe, explique Human Rights Watch. Et pour Kenneth Roth, directeur exécutif de l'ONG, l'année écoulée a montré l'importance de réagir contre la menace posée par les démagogues et leurs politiques visant les droits humains.
Même aux États-Unis, par exemple, après l'élection de Trump et il est entré dans la Maison Blanche, il y avait une grande réaction parmi beaucoup parties de la population. Et donc, par exemple, il n'a pas réussi à limiter l'entrée aux États-Unis des musulmans. Il n'a pas réussi en détruisant Obamacare, le droit de la santé. Il n'a pas réussi à vider l'armée américaine des transgenres. Ça montre que la résistance est très importante. Par contre, là où il n'y avait pas la résistance, ou parce que la résistance domestique était réprimée, ou parce que la communauté internationale était préoccupée par autre chose, les populistes ont prospéré. Par exemple, en Turquie, président Erdogan a détruit la démocratie turque. L'Union européenne était uniquement préoccupée par le flot des réfugiés de Turquie. Et il avait un feu vert pour continuer avec sa répression. Ou bien en Égypte, président Sisi, il a convaincu les pays occidentaux qu'il donne la stabilité régionale par sa répression domestique. Et à mon avis, c'est une stabilité fausse, parce qu'il y aura un jour où la population va se lever contre ce gouvernement qui ne les représente pas.
Kenneth Roth au micro de Valérie Crova. Les syndicats de prison appellent à la poursuite des blocages demain. Aujourd'hui, il y avait des barrages et des piquets de grève devant une petite moitié des établissements pénitentiaires du pays. Des négociations sont en cours avec l'administration pénitentiaire sur le thème de la sécurité. Pour l'instant, les syndicats attendent un arbitrage, une réponse de Matignon. Xavier Demagny, vous vous êtes rendu à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Les surveillants restent très déterminés. Et le mouvement fait même réagir les détenus.
Oui, ce matin à Fleury, environ 150-200 gardiens peut-être ont bloqué les entrées et sorties de la prison avec des conséquences évidemment sur la vie carcérale, annulation des parloirs prévus et les temps de promenade ont aussi été réduits. C'est pour ça qu'en fin de matinée, pour protester, 123 détenus ont donc pendant un moment refusé de regagner leur cellule. Tout s'est terminé en début d'après-midi dans le calme selon l'administration pénitentiaire. Cet incident, c'est en tout cas une réaction à cette colère des surveillants, mouvement d'ampleur. Selon les syndicats, ils parlent des 2/3 des établissements touchés. Moins de la moitié, dit l'administration pénitentiaire. Mouvement qui, malgré tout, continue donc en attendant la suite des négociations.
Et en ce qui concerne justement ces négociations, Xavier, on en est où?
Alors pour l'instant, tout le monde, que ce soit l'administration pénitentiaire d'un côté ou les syndicats de l'autre, tout le monde attend la réponse politique du gouvernement. Entendez des engagements précis et financés. Un document de travail a été présenté à Matignon et au ministère de la Justice, mais on ne sait toujours pas quand des décisions pourrait être prise. Dans cette base de discussion, les deux parties sont tombées d'accord sur un certain nombre de points. Recrutement, gestion des détenus radicalisés, autorité des personnels, on n'en sait pas là, non, on sait là non plus pas bien plus. Après, se joue aussi une bataille syndicale, hein, puisque Force Ouvrière appelle au blocage, mais ne participe pas à ces négociations et a en plus des revendications statutaires. Et puis se joue aussi une course à la mobilisation, puisque l'UFAP, UNSA et la CGT continuent donc à appeler au blocage dès demain matin 6h. Un moyen de faire pression sur les négociations. Le conflit continue, il ne cessera qu'au terme d'un accord validé par les personnels, disent ce soir les deux organisations dans un communiqué.
Merci Xavier Demagny. Au lendemain de l'abandon du projet d'aéroport, une nouvelle phase délicate s'ouvre à Notre-Dame-des-Landes. L'avenir de la ZAD, dont les occupants se disent prêts à rouvrir les accès mais refusent toute expulsion. La première urgence, c'est la libération des routes traversant la zone. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a précisé l'échéance, la fin de la semaine prochaine. Véronique Rubérotte, vous êtes à Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes se réunissent ce soir à ce sujet. Ils savent que s'ils libèrent rapidement la route, ce sera un gage d'apaisement.
Colonisée par les zadistes en 2013, après l'intervention ratée des forces de l'ordre, l'opération César, pour évacuer la ZAD, la D281 n'a jamais été rouverte à la circulation. Des cabanes, des carcasses de voitures, des pneus embarrassent la route des chicanes. L'État demande rapidement qu'elle puisse être utilisée à nouveau par tout le monde d'ici la fin de la semaine prochaine. Nicole Klein, la préfète des Pays de la Loire.
La première manifestation de l'État de droit, c'est la liberté de circuler partout, à n'importe quelle heure de jour et de la nuit. Une des routes est interdite à la circulation, donc on va la dégager. Les habitants ont commencé à débarrasser les chicanes, les pneus. J'ai eu le maire de Notre-Dame-des-Landes qui m'a dit qu'il ferait tout pour que la route soit dégagée sur la base de l'action volontaire, pour que plus personne ne soit obligé de faire un détour de 45 km pour éviter la zone. C'est le premier signe d'apaisement, c'est le signe qu'on veut rentrer dans le droit commun.
Surtout éviter l'intervention des forces de l'ordre, des gendarmes qui depuis ce matin effectuent des contrôles aux abords de la ZAD. Julien Durand, opposant historique à Notre-Dame-des-Landes, est confiant sur la possibilité de régler le problème en quelques jours.
La route, elle se libérera et se rendra libre à la circulation. Moi j'en suis sûr, les associations sont pour, la grande majorité de la ZAD est aussi pour. Il reste à régler quelques petits détails de relations humaines avec les gens qui sont autour de cette route, mais ça doit se faire. Il n'y a plus de raison d'avoir des obstacles sur cette route, puisqu'il n'y a plus de projet, donc il n'y a plus de menace.
Il reste à convaincre quelques irréductibles, ceux qui occupent la route depuis des années, 20, 30 zadistes peut-être maximum, qui habitent aux abords immédiats de la D281. Ils rechignent à déménager et surtout se moquent bien de donner des gages de bonne volonté à l'État.
Véronique Rubérotte avec Nicolas Mathias à la technique. Le PDG de Vinci a reçu à Bercy un premier rendez-vous avec le ministre des Finances Bruno Le Maire et la ministre des Transports Elisabeth Borne pour lancer les discussions sur l'indemnisation du groupe après l'abandon du projet d'aéroport. Un abandon qualifié de sage décision par Martine Aubry. La maire de Lille qui présentait ses vœux a aussi pris position au sujet de la course à la direction du Parti Socialiste. Elle apporte son soutien à Olivier Faure, président du groupe PS de l'Assemblée Nationale. Quatre autres candidats sont en lice, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas, Emmanuel Morel et Delphine Bateau. Julien Drey, lui, réfléchit toujours. Pour accélérer le développement de l'économie sociale et solidaire, le gouvernement promet de mobiliser 1 milliard d'euros sur 5 ans. Des fonds publics et privés qui doivent permettre de changer d'échelle et de favoriser plus largement l'innovation sociale. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a lancé officiellement aujourd'hui l'accélérateur national de l'innovation sociale avec à ses côtés le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, Julien Denormandie.
Et aujourd'hui, il y a désormais le French Impact, référence à l'ancienne French Tech. C'est le nom qu'a choisi le gouvernement pour ce nouveau label avec l'objectif affiché, repérer des innovations sociales pour les territoires et les aider à changer d'échelle. Ce matin, Nicolas Hulot a lancé ce plan avec un plaidoyer pour une économie sociale qui doit, dit-il, inspirer l'ensemble du tissu économique. Elle investit dans le bien commun, il faut en faire une marque de fabrique de la France, a-t-il ajouté. Pour cela, le gouvernement lance donc cet accélérateur national pour accompagner juridiquement et financièrement les projets innovants. Particularité de cette bannière, elle ne s'adresse pas qu'aux acteurs traditionnels du secteur, mais aussi aux entreprises et start-up à impact social. Pour Christophe Ittier, haut commissaire à l'ESS et à l'innovation sociale, le statut n'importe guère.
Il y a l'innovation sociale qui est l'ADN même de l'économie sociale et solidaire. Et après, c'est de se dire, est-ce que finalement, à trop fréquenter des entreprises qui viennent d'un monde différent de l'économie dite traditionnelle, on perd son âme. C'est ça l'enjeu. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, avec ce type de démarche, on veut démontrer que c'est cette économie sociale et solidaire, ces entrepreneurs sociaux, ces associations, ces mutuelles, ces coopératives, ces fondations, c'est elles qui ont compris que le modèle, dans ce modèle de croissance actuel, va à sa perte et qu'il faut revenir à des fondamentaux plus durables et solidaires.
Reste que les initiatives représentées ce matin venaient majoritairement du monde de l'entrepreneuriat social, le signe d'un changement de philosophie que l'on retrouve aussi côté finance. Vous le disiez, Christophe Ittier annonce vouloir mobiliser 1 milliard d'euros grâce à des fonds publics selon des modalités qui ne sont d'ailleurs pas encore très claires, mais aussi des financements privés. Le haut commissaire travaille à la création d'un fonds d'amorçage social, financé entre autres par la Caisse des dépôts, mais aussi par des banques. Un appel à projets a par ailleurs été lancé pour sélectionner les structures qui seront les têtes d'affiche du French Impact.
Catherine Pétillon. Un premier accord de rupture conventionnelle collective a été négocié chez PSA. Il y aura 1300 départs volontaires. En contrepartie, l'entreprise s'engage à recruter au moins autant de CDI en 2018. Le projet de la direction a reçu l'aval d'une majorité de syndicats, mais pas celui de la CGT qui est catégoriquement opposée. C'est une vaste concertation qui démarre aujourd'hui. 6 mois de débats et de consultations pour, comme le dit le président du Comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfraissy, prendre le pouls de la société sur des sujets complexes et sensibles. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie.
Les états généraux de la bioéthique sont donc lancés avec en ligne de mire la révision de la loi bioéthique de 2011. Comment est-ce que ça va se passer?
Alors pour l'instant, il ne s'agit pas de légiférer, mais d'éclairer le débat, de faire émerger une parole citoyenne qui ne soit pas téléguidée et d'où naîtront les vraies questions. Par exemple, le président du comité d'éthique que vous citiez insistait tout à l'heure sur les problèmes qu'opposeront, donc exemple, les robots chirurgiens. Comment nous, patients, pourrions donner notre consentement éclairé à un robot? Mais il y aura sûrement, dit-il, via les discussions en région et nationale, d'autres inquiétudes qui vont émerger et les citoyens diront justement s'il faut ou non faire intervenir la loi sur tous les thèmes.
Et alors, pour comprendre comment circule cette parole citoyenne, vous avez rencontré le professeur Didier Sicard, ancien président du comité d'éthique, qui a notamment travaillé sur la fin de vie et sur le suicide assisté.
Oui, alors c'était une mission sur l'euthanasie confiée par François Hollande et Didier Sicard a été surpris d'entendre certaines paroles.
Je suis frappé de voir que dans une société multiculturelle comme la France, ce qui a été une des plus riches pour moi, c'était la vision des retraités d'Afrique du Nord, algériens, qui regardaient les débats avec un mélange d'angoisse et d'étrangeté. Oui. C'est-à-dire que pour eux, ils considéraient que s'il y avait une loi sur l'euthanasie, eux seraient la variable d'ajustement parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de retraite et qu'ils allaient être tués, même si je leur disais mais qu'il n'y avait aucune chance que ça se passe comme ça. Mais eux, dans leur imaginaire, ils pensaient que leur incapacité de se défendre faisait qu'ils allaient passer à la trappe. Donc ça montrait que des fantasmes dans une société, ça existe. Alors on ne peut pas faire une loi qui prenne en compte tous les fantasmes du monde, mais... Et c'était intéressant à faire réémerger, au fond, plutôt qu'un unanimisme. Alors, c'est vrai que c'est la difficulté du législateur de rassembler les hétérogénéités pour en faire, mais c'est sa responsabilité.
Les citoyens sont donc là pour éclairer les législateurs et il ne faut pas oublier la complexité des problèmes, souligne Didier Sicard. Par exemple, pour la PMA, se pose la question de l'anonymat du donneur.
Actuellement, c'est un donneur de gamètes, de sperme, il est anonyme. C'est pas le problème, c'est bien ou c'est mal. Mais ça ne peut pas tenir, parce que les enfants nés de femmes, couples de femmes, ou les femmes seules, vont demander à identifier très rapidement quel est leur père biologique. Et on ne pourra pas faire une discrimination entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Autrement dit, le maintien de l'anonymat va disparaître. De la même façon, quand un homme est malade et qu'il a confié ses gamètes à une banque de sperme pour que s'il guérit, mais qu'il est devenu stérile, il puisse, avec son ami, sa compagne, sa femme, avoir un enfant. Actuellement, c'est interdit, s'il meurt, l'accès de ses gamètes ou de l'embryon qui était dans les congélateurs est inaccessible pour la femme. On ne sait pas au nom de quoi on pourra maintenir cette interdiction, dans la mesure où l'interdiction était fondée sur « on ne veut pas faire de procréation sans père ». Donc, de la même façon, sur le plan financier, actuellement, la procréation assistée payée par l'assurance maladie, c'est gratuit. Et le coût augmentera de façon assez importante. C'est quand même 7000 euros par personne. Et on disait qu'il faudrait trouver un autre financement. Je ne vois pas au nom de quoi on allait trouver un financement spécifique pour les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Alors là, on crée des discriminations. Donc il faut un peu l'anticiper. Et donc on voit très bien que, un peu comme le jeu d'échecs ou le jeu de domino, comment une modification de la loi a des répercussions qui dépassent largement l'accès tout à fait légitime des femmes à une procréation.
Voilà, et ces débats vertigineux vont durer pendant 6 mois, Aurélie.
Merci Tarach Legal. Une violente tempête a balayé les Pays-Bas et l'Allemagne, faisant 6 morts et perturbant fortement les transports. À La Réunion, il y a toujours une alerte orange cyclonique. Demain, dans l'Hexagone, il pleuvra ou il neigera selon l'altitude. Les températures varieront le matin entre 1 et 5 degrés sur la moitié nord, 4 et 18 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.